Salut Marc, salut les Smart et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, nous analysons ensemble les shows de la WWE. C'est l'heure du Monday Night Raw et avec moi, j'ai un revenant. Voilà, il n'y a pas que Edge qui a le droit de revenir sous les vivas de la foule. Vous pensiez le connaître? Eh bien, peut-être pas. C'est Giscal, c'est Giscal.
Salut Yerem, salut tout le monde.
Meilleur retour que de revenir au lendemain du Rumble.
Écoute, j'ai essayé de négocier, mais malheureusement, il n'y avait plus de spot de libre dans le Rumble. Donc finalement, je fais mon retour le surlendemain du Rumble. Tu vois, c'est un petit peu mon night after WrestleMania à moi.
C'est beau. C'est beau. Ces gens qui reviennent, voilà, qu'on pensait fini, qu'on pensait terminé.
Qu'on pensait cramé, carbo, ouais, voilà.
Et puis, alors, ils en ont encore sous la semelle.
Voilà, j'ai décidé que je n'allais pas arrêter ma carrière chez Ketchup de cette manière-là. Et donc j'ai encore un dernier run.
Ouais. Dernier run, contrairement à Drew McIntyre, qui a tout l'avenir devant lui, finalement.
Oui.
Il est là, il ouvre le show, ça fait plaisir hein, que le gagnant du Rumble ouvre ce show.
Ah oui.
Fini les conneries avec Seth Rollins. Voilà, il a du mal à s'en remettre, il est ému, hein, Drew McIntyre. Il y avait de l'émotion du début jusqu'à la fin dans ce Monday Night Raw. Ça fait du bien de pouvoir annoncer que Drew McIntyre est le gagnant du Royal Rumble. Il va à WrestleMania, il peut pointer cette fois-ci un vrai panneau, parce que j'en ai pas parlé pendant ma review, mais c'était honteux l'absence de vrai panneau WrestleMania au Rumble. Il y avait juste un vieux écran LED. C'était un peu dommage. Mais il n'est pas là, il a une grosse annonce à faire. Il sait, voilà, il va pas s'éterniser et il challenge, attention, Brock Lesnar, et oui, il était malin. C'est vrai qu'il aurait pu challenger Andrade. Ah ben non, il était suspendu, le con.
Oui.
Ah, voilà. Faut pas fumer. Le petit cigarillo de.
Le petit cigarillo cubain.
Robert Roode tourne encore. On le reverra un petit peu plus tard. Brock Lesnar est l'élu. Visiblement, tout le monde a les couilles qui tremblent face à Brock Lesnar. Mais Drew McIntyre, il en a des grosses, elle tremble pas. Il lui a foutu une grosse claymore. Il va aller battre Brock Lesnar pour le titre. Et ce soir, il veut organiser une claymore party right now. Donc, open challenge. Et c'est les Good Brothers qui débarquent et qui vont se faire démolir en moins de 3 minutes. Par la nouvelle star de la WWE, Drew McIntyre. Mais la fête n'aura pas duré très longtemps puisque Brock Lesnar vient placer un E5 sur Drew McIntyre. Il est venu gâcher la soirée. Brock party. Brock Lesnar, voilà, qui repart, il n'est pas content. Est-ce que Giscal est content de ce choix, ce chosen one, Drew McIntyre?
Eh bien oui, je suis très 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 content de ce nouveau Drew McIntyre qui en plus ça manquait, je trouve, à Raw depuis quelques temps d'un top face un peu badass, un peu costaud, un peu fier. Qui j'aime bien son personnage là, voilà, il est très très sûr de lui, très sûr de sa force, et je trouve que ça marche bien. C'est un petit peu le bon pendant pour de Roman Reigns à Raw, ce que n'a pas vraiment su faire Seth Rollins, je pense. Drew McIntyre remplit bien le costume, donc j'étais assez content et surpris de sa victoire au Royal Rumble, content de ce début de Raw, un petit peu enfin, chagriné, oui et non, de cette victoire de handicap match contre les Good Brothers, mais en même temps, il y a un moment où il faut aussi assumer la direction artistique et scénaristique, on va dire, de Raw. D'ailleurs, je pense qu'on en avait parlé lors des awards de fin d'année. La division tag team de Raw, bah, c'est globalement un peu de la vanne. C'est un petit peu traité comme une équipe peut devenir un peu un mouchoir qu'on jette la semaine d'après. Donc bon, bah là, les Good Brothers, on est passé de la meilleure équipe du monde à une équipe qui perd en handicap match contre Drew McIntyre. Bon, écoute, pourquoi pas, ça lui permet en tout cas à Drew d'être booké super fort et de se lancer vers Brock Lesnar et de, je pense, être on est parti pour l'année de Drew McIntyre. Son turn était assez son face turn était assez intéressant parce qu'au final, c'est vrai que bon, alors j'ai suivi un petit peu Raw de loin pendant mon long hiatus là, mais En fait, il n'a pas vraiment changé, entre guillemets. C'est juste qu'il est devenu un petit peu plus fier, un petit peu plus de bagou. Il a ajouté son 3-2-1 avant la clé mort. Et c'est assez paradoxal parce que c'est finalement un petit peu en se la pétant, un petit peu en faisant le Kekos, qu'il est devenu favori des foules. Donc c'est assez marrant, mais ça marche bien. Et c'est vrai que voir ce colosse s'éclater, envoyer des clés morts dans tous les sens, super bien scellé par Luc et Karl, encore une fois, comme pendant tout le Rumble par les autres adversaires, bah ça marche bien. Donc moi, bah, ça me plaît bien, ouais, de voir ce colosse écossais là régner sur la title picture de Raw, là, être le top face de Raw. Donc ça me va bien. Puis la petite intervention de Brock qui fait le job, qui fait le café.
Ouais, et voilà, un petit café pour un petit expresso pour la, voilà, pour la
petit
5.
Expresso. Ouais.
Bon, c'était, il y a eu des retours réussis, peut-être d'autres un petit peu moins, puisque MVP est visiblement de retour. On ne sait pas si c'est pour plus que ce qu'il nous a montré au Rumble et ce qu'il nous a montré
je pense
ce
pas.
Soir. Ouais, je pense pas non plus, et honnêtement, j'espère pas, parce qu'il a eu un match passablement dégueulasse face à Rey Mysterio, qui a duré comme une plombe. En plus, ça a duré 10 minutes, il y avait plein de temps morts, ils ont eu du mal à se connecter, il y a eu des botches, le mec savait juste pas où il était, il était complètement paumé, le seul truc qu'il a vraiment réussi, c'est son entrée. Rey Mysterio qui se débarrasse de MVP en moins de 10 minutes, bon, bah merci d'être passé, au revoir, non, pour l'ancien champion US.
Ouais, c'est un peu ça. Ils avaient une histoire, je pense, un petit peu tous les deux, ça lui faisait plaisir. Je pense que moi, ça, si ça en reste là, ça me va. Moi, je trouve que c'est plutôt sympa. La WWE a fait un petit kiff à MVP avec ce spot au Rumble et ce match contre un de ses potes et une de ses idoles là, le lendemain. Donc ça va. Ils auraient peut-être pu faire un poil plus court et puis à la limite jouer un petit peu plus sur ses forces, je trouve. En lui donnant pourquoi pas le micro avant le match, parce que c'est quand même une bonne promo, comme on dit dans le jargon là, MVP. Donc c'est vrai que c'est dommage de peut-être pas l'avoir entendu faire une petite promo old school avant de partir, mais bon voilà, je pense qu'à mon avis ça devrait pas être amené à durer, donc inoffensif, un petit moment de nostalgie pour les fans du début des années 2000.
Aleister Black qui s'attaque toujours et encore à des catcheurs inoffensifs, puisqu'on retourne en mode désengage de jobbers locaux. Il a vaincu son adversaire du jour en 40 secondes. Et Aleister Black, je ne sais pas, peut-être le fait de participer au Rumble lui a fait prendre conscience de, on va dire, tout ce qui fonctionne pas dans son booking, à savoir que ce gimmick de venir me chercher, il est un petit,
oui,
il est, on va dire, complètement con, et que cette fois-ci, c'est lui qui va aller chercher la bagarre. Donc il aura mis un an à comprendre que c'est comment fonctionne le catch.
Ouais, c'est comme ça que ça marche.
C'est comme ça que ça marche ici. Tu vas chercher les ennuis, hein. Sinon, on va te laisser tout seul au vestiaire. Il y a pas de problème, puisque les spots, Enfin, les places sont chères, et c'est pas en disant « Oh, bah, venez me chercher !» qu'on va te dire « Bah tiens, voici un title shot. » Voilà pour Aleister Black, donc Aleister Black qui a ouvert les yeux.
Écoute, pourquoi pas. Faut capitaliser derrière maintenant, faut pas que ce soit des paroles creuses de remplissage, mais si derrière, il se met en mode badass à cogner tout ce qui bouge et à monter petit à petit dans la hiérarchie en envoyant des black mass dans tous les sens, moi, ça peut me plaire. J'ai bien aimé son petit squash. En fait, il a un style qui se prête pas mal au squash, parce que c'est vrai que son finisher est assez dingue. Enfin, il le porte tellement bien. Kudos au jobber de l'avoir très très bien vendu. Donc, il a compris. Donc maintenant, il faut y aller. Hein.
Ouais. Bah, surtout qu'il est pris un petit peu dans, on va dire, la grosse storyline de Monday Night Raw. Hein. Qui concerne évidemment Seth Rollins qui d'ailleurs nous dit ok, le mec il a perdu, il nous annonce que les fans vont pas trop tarder à se retourner face à Drew McIntyre.
Je trouve ça pas mal, ça.
Ouais, bien sûr. les fans, c'est il ultime, le fan. Le point positif, c'est qu'il a éliminé Kevin Owens et Samoa Joe. C'est vrai, hein, une petite, voilà, ils sont plutôt pas mal démerdés au Royal Rumble, même si au final, cette release s'est un petit peu retrouvée scellée. Mais pas de problème, ce soir, il est avec son pote, son buddy, Murphy. Et il interpelle Kevin Owens, Samoa Joe, allez, venez les gars, on va se battre. Vous savez quoi, on va faire un petit match pour le titre ce soir, parce que n'oublions pas, ils ont pris le titre par équipe aux anciens porteurs, là, les mecs qui font du cosplay de Vikings, hein. qui font « Ah mec, t'es complètement pété, t'es en mode delusional, comme ils aiment dire, c'est un gros jacasse, tu crains, et de toute façon, on sait que là, tu essaies de nous tendre un putain de piège avec Eopi qui doit traîner par là. Alors, Seth Rollins se refait, attendez les gars, mais non. Eopi, ils portent nos sacs, ils sont dans les vestiaires, là, ils sont en train de ranger mes slips. Regarde la preuve en vidéo. Eopi arrive, oui. Ils disent ils sont d'où déjà les mecs ?
En albanais, ils disent en albanais, oui, nous sommes en train de laver les slips.
Voilà,
oui.
Regardez, je les plie parfaitement, comme ci, comme ça. Hop, j'ai une technique. C'est ma technique albanaise pour plier les slips. Sauf que Samoa Joe et Kevin Owens, ils avaient un plan et les Viking Raiders attaquent les plieurs de slip dans les vestiaires avant qu'on enchaîne finalement sur le match tag team. Avant qu'on parle du match, qu'est-ce que tu penses un petit peu de toute cette rivalité là qui inclut pas mal de beau monde finalement et de ce nouveau Monday Night Messiah, Seth Rollins.
Messiah. Non, mais ça me plaît bien. Écoute, déjà j'aime bien ces storylines qui permettent. En fait, c'est des storylines qui sont plutôt intelligentes dans le sens où elles impliquent beaucoup de catcheurs et derrière, ça permet beaucoup de portes de sortie potentielles une fois que ce sera terminé. Tu vois, c'est vrai qu'on pourra partir Samoa Joe, Kevin Owens, Buddy Murphy, Seth Rollins, Eopi, même Aleister Black, tu l'as mentionné. En fait, comme il y a beaucoup de monde qui gravite et que ça s'enchaîne plutôt bien, derrière, après jusqu'à WrestleMania ou après WrestleMania, je ne sais pas, t'as potentiellement plein d'affrontements un peu frais qui peuvent découler de tout ça, donc ça c'est déjà un bon point. Et puis écoute, après moi ouais, l'histoire me plaît bien, l'association Kevin Owens Samoa Joe, je trouve que elle fonctionne bien visuellement parce que déjà c'est deux gros mastocs qui ont de la gueule qui ont quand même une gueule de killer. À l'oreille ça marche bien aussi parce que c'est deux super promos tous les deux qui s'éclatent dans un style voilà toujours un peu sarcastique, ironique, ils savent bien se moquer des heels, donc ça marche bien. Puis dans le ring, ça envoie du pâté, donc j'aime beaucoup cette équipe. Le nouveau personnage de Seth Rollins marche au poil, il capitalise sur tout ce qui a fait ses défauts en tant que top face. Donc c'est vrai que c'est une sorte d'antithèse de lui-même qui marche vraiment bien, parce que du coup, là maintenant, il nous donne toutes les raisons du monde de vraiment le détester. Donc je trouve que ça colle très très bien. Et ce petit échange était assez rigolo. C'est assez rare de voir en début de rivalité comme ça commence à faire un petit moment, mais de voir finalement avant un grand payoff, de voir les faces ruser et finalement être plus intelligent que les heels et déjouer les pièges, parce que finalement il arrive à faire dire à Seth Rollins où sont planqués ces minions, et donc comme ça pour les permettre de les neutraliser. Donc j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal du tout. Et puis ça nous amène après au match. Donc ouais.
Ils sont pas cons, hein, ces Canadiens. Des fins stratèges.
J'aime bien parce que du coup, tu vois, voilà, c'est pas des babyface qui soudainement se transforment en débiles, un peu niais, juste parce qu'ils sont babyface pour cette période-là, quoi.
Ouais, non. Effectivement, Samoa Joe, Kevin Owens, c'est des gros costauds qui sont pas trop cons. Donc, c'est tout à leur honneur. Malheureusement, ça va pas suffire pour battre les champions et s'emparer de ce titre tag team. Dans ce match qui a été improvisé et offert par le Messi lui-même. D'ailleurs, on a eu. Faut dire que Samoa Joe était blessé.
Oui, c'est important.
Ouais, c'est important. Donc, ça a pas mal changé. Kevin Owens s'est retrouvé tout seul pour affronter les deux autres Zigoto. Malgré son gros frog splash, il n'a pas réussi à se débarrasser de Seth Rollins. Murphy a pu en profiter également pour placer tous ses coups. Owens a placé. enfin voulait ou a placé le stunner, et c'est Murphy qui a profité pour me faire un petit roll-up et donc empêcher Samoa Joe Kevin Owens de récupérer le titre. Je sais pas si Samoa Joe, est-ce que c'était une vraie blessure ou pas?
Je sais pas, j'ai pas l'impression. Je pense que c'était vraiment le booking du match qui était fait comme ça pour essayer de protéger un peu les faces et de donner un beau petit moment là de babyface à Kevin Owens. C'est plutôt comme ça que je l'ai. Mais j'espère en tout cas que c'est pas une vraie blessure, ça c'est sûr. Mais j'ai pas eu le sentiment que c'était pas une topée suicidale, mais c'était entre les cordes là quand il s'est jeté sur Seth Rollins à l'extérieur. J'ai pas eu le sentiment que c'était trop violent. Donc à mon avis c'est worké, mais bon écoute, on aura assez vite la confirmation.
Ouais, ça ressemble quand même pas mal justement à, enfin comment dire, comment faire gagner Seth Rollins et Buddy Murphy face à deux gros Golgothes comme ça. Bah t'en supprimes un de l'équation et
yes, ce
serait ni la première ni la dernière fois qu'on se retrouve avec ce genre de ficelle un petit peu pour permettre aux vilains de conserver. On a une petite interview de Becky Lynch, tiens, en parlant de Seth Rollins. Elle a battu Asuka.
Et oui, enfin.
Et du coup, ça y est, elle est au top là maintenant. Elle dit ce qu'elle fait. Elle est comme Charlotte finalement. Elle tient ses promesses. Et elle parle un petit peu de Charlotte, je crois, en lui disant que si jamais
elle dit que surtout que maintenant le prochain, la prochaine qu'elle choisira de défoncer, ce sera parce qu'elle l'aura décidé. Tu vois, tu sens que vraiment elle a passé ce cap d'Asuka, c'était un peu le truc qui lui trottait derrière à la tête, le dernier échelon à gravir pour être vraiment au sommet du sommet.
Maintenant,
la prochaine nana qu'elle va défoncer, c'est parce qu'elle l'aura décidé, parce qu'elle aura envie. Et puis en effet, après, elle mentionne Charlotte.
C'est marrant de dire ça alors qu'on vient d'avoir le Rumble où justement tu donnes un ticket à quelqu'un qui peut réclamer qui de droit sur un title shot.
Non, mais c'est plus dans le sens où même si elle se fait challenger, si elle accepte, c'est parce qu'elle l'aura décidé. C'est plus parce que elle est poussée par cette envie de battre quelqu'un qui l'avait tenu en échec dans le passé, quoi.
Psychologie, analyse psychologique.
Charlotte, elle l'a battue partout dans le monde entier toute l'année dernière, donc c'est vrai que elle est plutôt confiante. Si jamais Charlotte la défie,
c'est compliqué d'imaginer vraiment quelqu'un qui aurait challengé Becky Lynch dans les rosters actuels, parce que même à Charlotte Becky Lynch, belle affiche en soi, mais
là c'est sûr que c'est vu et revu là.
Archi revu même, je dirais même
sans
plus.
Doute un peu tôt.
Ouais, exactement. Faut peut-être laisser un petit peu couler les choses avant de se retrouver effectivement pour la énième itération entre les deux. Surtout que Charlotte ne va pas nous dire ce soir, c'est pas ce soir qu'elle va nous dire qui elle va challenger, puisque un petit peu plus tard, elle avait un match. Elle nous a teasé en fait son annonce, mais c'est la reine et elle fait ce qu'elle veut, et surtout elle est interrompue par Asuka justement et Kairi Sane, des blatères, des trucs en japonais, elles sont toujours aussi vénères, et du coup on a un match entre les deux, donc une espèce de petit rematch de WrestleMania 34, on s'en souvient encore.
Ah oui, quand même.
Nous y étions. Ce match se termine par une disqualification.
Oui.
Avec Kairi Sane qui intervient.
Kairi Sane qui casse le figure 8 en sortant son Insane Elbow sur Charlotte qui était en train de faire un ponté pour son figure 8. C'était assez sympa comme petit spot.
Le fameux figure 8 qui avait justement. C'était à WrestleMania 34 qu'elle l'avait sorti, je crois, non?
Ouais, qui avait.
Ou elle l'avait fait sur une main en plus.
Ouais, je crois qu'elle l'avait fait sur une main au bout de l'effort, mais c'était pas sa première fois qu'elle le faisait, mais elle avait gagné avec cette prise, en effet.
Donc c'était pas ce soir qu'on allait avoir une victoire entre les deux. De toute façon, je suis pas sûr que ça aurait servi ni l'une ni l'autre.
Non.
C'est l'issue était presque inévitable. J'en profite pour te poser la question, mon bon Giscal. Qu'est-ce que tu penses de Charlotte gagnante du Royal Rumble, et qu'est-ce que ça peut laisser entrevoir? C'est assez mystérieux tout ça.
Ouais, c'est vrai que c'est un choix. Alors, j'avais pas misé Charlotte, mais clairement, j'aurais pu. En fait, pour moi, il n'y avait pas trop de choix possible. C'était soit Charlotte, soit J'avais pronostiqué Shayna Baszler parce que je me suis dit qu'il voulait peut-être tenter un coup à la Ronda aussi, un petit peu, de dire, bon, bah, voilà, peut-être la successeur, on va dire, de Ronda aussi pour monter dans le main roster et apporter ce côté un peu legit, MMA, qui du coup bah, a disparu en même temps que Ronda. Bon, finalement, c'est pas ça. Ils sont revenus sur les classiques. Fondamentalement, je voyais pas, enfin, pour moi, j'avais pas trop. Suffisait de regarder un peu le Royal Rumble, je voyais aucune fille qui était légitime pour gagner ce match, hormis bah, toujours la même Charlotte, quoi. Donc j'étais pas non plus super choqué. Par contre, ça me donne pas forcément la réponse de ce qu'ils vont vouloir faire un peu avec Charlotte après, parce que Charlotte Becky, ce serait un peu une erreur, je pense. Pour moi, ce serait vraiment. Ce serait une sorte de version édulcorée du WrestleMania de l'année dernière. On n'aurait pas vraiment une progression, parce qu'on avait un triple threat absolument monstrueux l'année dernière. Là, bah, du coup, on prendrait juste un match simple entre deux membres sur les trois, donc ce serait un petit peu bizarre. Un match, en plus, qu'on a vu d'innombrables fois et dans lesquels Becky est sorti quand même globalement vainqueur, enfin, sans trop de problèmes. Donc maintenant, c'est vrai que moi, j'ai lu un petit peu sur internet des gars qui aimaient
Monsieur
l'idée
Lee,
que...
dis donc.
Oui, bah
s'est
oui.
Mis à la lecture.
Tu sais, maintenant j'ai du temps libre, alors je me mets à lire.
Dépôt de parler.
Et j'ai lu qu'en fait, cette petite interaction avec Asuka et Sane et tout, ça pourrait être un teasing potentiellement pour faire un peu une première, parce qu'ils aiment bien avec les femmes faire des premières, marquer l'histoire et tout, bah, que Charlotte utilise ce title shot pour défier peut-être pour les ceintures par équipe à WrestleMania, tu vois.
Oh là 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 là.
Peut-être que pourquoi pas, parce que je la vois pas aller taper du côté de SmackDown, taper l'horrible Bayley qui, j'espère, d'ici là aura perdu sa ceinture. Éventuellement, si Lacey Evans gagne le titre, il y a une petite histoire entre les deux. Peut-être que Lacey Charlotte, ça pourrait être un match sympa. Je sais pas.
J'ai lu. Alors moi, qui lis également, j'ai lu.
Ah. Vous avez des podcasteurs littéraires quand même. Il faut quand même le souligner.
Ouais, la plume et le catch. J'ai lu. Et pourquoi pas. On est dans une nouvelle époque, hein, dorénavant. N'oublions pas, il y a trois brands. Il faut compter dorénavant avec NXT.
Ah.
Et pourquoi pas Charlotte, Charlotte, deuxième championne NXT, qui irait défier Rhea Ripley à WrestleMania.
Ah, c'est une bonne idée. C'est marrant que ça m'a même pas traversé l'esprit, tiens. Ça.
Et parce que tu lis trop c'est... aussi, du coup, t'as plus le temps de penser.
Mais oui.
Là, tu lis.
Bah voilà, faut choisir. Hein. C'est soit tu parles, soit tu lis, soit tu penses. Pourquoi tout faire en même temps. Ah oui, tiens, c'est vrai que ce serait sympa, tiens, pour donner un petit coup de projo à WrestleMania, à NXT et à Rhea Ripley.
Ce serait une grosse affiche quand même, du coup.
Ouais, ce serait une belle affiche. Ouais. Ça me plaît bien, ça, comme idée, tiens.
Allez, bah, allez. Voilà. Allez, c'est parti, c'est vendu.
Allez, vendu.
Avec ceci, ma bonne dame, qu'est-ce que je vous mets? un petit match pour le titre US là avec un mec qui fume la marijuana. Donc bah Andrade qui a défendu son titre contre Humberto Carrillo alors qu'il avait déjà fait une sorte de rematch hein, de Royal Rumble puisqu'il s'était déjà affronté dimanche soir. Mais un Humberto Carrillo un petit peu plus agressif hein, puisque après la DQ, encore une DQ, c'est un peu la soirée de DQ.
Eh oui,
Céline
Navega
est intervenue, provoquant la DQ. Donc, Humberto Carrillo gagne, mais ne glane pas la ceinture pour autant. Et surtout, il n'était pas content. Et il a fait un DDT sur Andrade, sur le sol dont on avait retiré les protections préalablement. Humberto Carrillo, donc un peu plus agressif. Hein, et une Céline Navega qui était au bord du malaise, tellement elle était choquée par ce qu'elle venait de voir. Et en Andrade, voilà, qui a été tout simplement mis à pied pour 30 jours, et probablement un titre US qui va être remis en jeu.
Non ?
Bah écoute, je ne sais pas. Est-ce qu'il va être remis en jeu ? Peut-être pas. Est-ce qu'on va attendre sa suspension à la fin de...
Il dit peut-être qu'il va vendre la blessure.
Oui. Et... Bah, c'est un petit peu... je pense que c'était un petit peu l'idée de l'angle, c'était d'écrire... la sortie du scénario un petit peu de Andrade pour quelques jours. Enfin, pour quelques semaines. Ouais. Bah voilà, je pense qu'il va vendre, sa blessure. Est-ce qu'ils vont en profiter pour mettre le titre vacant ? Je suis pas persuadé. Non, moi je pense qu'au contraire.
Il y a pas forcément un besoin énorme autour de ce titre-là, toi.
Non, il y a pas un besoin énorme. J'ai trouvé un petit peu dommage de faire un rematch qui était en plus moins bon que celui du Rumble, j'ai trouvé.
Ouais. Enfin, je l'avais pas vu, mais comment dire, l'ami Chris en avait fait une analyse plutôt positive.
Oh bah c'est ça m'étonne pas, c'est la lucha.
Ouais. Déjà de base, le mec il met 3 étoiles sur 5 juste parce que c'est la lucha.
Voilà. Puis après c'est du bonus, on verra. S'ils ont fait des
un botch de Mysterio, je rajoute une étoile.
Ouais, s'ils ont fait des mouches espagnoles de la troisième corde, des trucs comme ça, voilà. Là, c'est 5 étoiles. Non, mais ouais, bon, je leur en voulais un petit peu, là, parce que c'est vrai que c'était un show dans lequel il y avait déjà eu pas mal de DQ, ou de finish un peu non définitif, on va dire. Là, c'est... à la limite, si c'était ça l'idée, je vois pas pourquoi, en fait, Humberto méritait un rematch. Éventuellement, Andrade aurait pu... aurait pu avoir un autre match en profitant pour choper une bonne victoire, ou Carrillo un match pour choper une bonne victoire, et puis que ce soit plutôt un angle post-match ce qui s'est passé. Mais bon, écoute, ça c'est du détail. Après, je l'aime bien, Humberto, je l'aime bien, mais je sais pas si c'est s'il est encore très s'il est encore très championship material là. Il lui manque encore un petit truc, donc.
Coché, bon,
tant mieux pour lui.
Material, tu peux pas me dire qu'Humberto Carrillo est championship material quand même.
Non, mais c'est pour ça que
je ne reconnais plus. Hein.
Bon, non, mais il est pas. Non, mais il a
trop
pas,
de sympathie pour les petits jeunes.
Là. Il peut pas gagner la ceinture, ce gars-là, c'est pas possible. Donc c'est vrai que de le voir impliqué dans une histoire comme ça, avec un angle important où il sort le champion et tout, je sais pas. Bon, écoute. Ok, mais je suis pas convaincu que ce soit forcément la bonne direction à prendre. Ouais, il m'a pas convaincu en tout cas, moi, c'est Humberto encore. Mais bon.
Ouais, non, là, clairement, ça fait trop longtemps qu'il est utilisé un petit peu en vain, ce mec. Et effectivement, comme tu le dis, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'autres mecs qui pourraient être utilisés dans ce spot-là, tu vois, pour donner un petit peu plus de. Ce que je veux dire, c'est que c'est peut-être pas le moment du. C'était pas forcément. C'est pas le meilleur timing pour utiliser. Comment il s'appelle Andrade pour mettre over un petit jeune, alors que le mec vient juste de changer le titre et que Andrade, il doit justement faire ses preuves. Lui, il est championship material à sa façon. Fais-le affronter plutôt des. Voilà, des mecs qui ont un peu de bouteille ou de la vraie mid-card. Voilà.
Toi, t'en étais dans le. Ouais, match, non, mais c'est vrai que je trouve ça un petit peu dommage de. Après, bon, bah voilà, c'est un choix peut-être de la WWE, peut-être qu'ils veulent miser sur Humberto, mais c'est vrai que là, on arrive sur la période un peu la plus chaude de l'année, c'est la saison de WrestleMania, de voir Andrade, bon, après, il s'est fait attraper par la patrouille, donc, ça c'est autre chose, mais c'est vrai que de voir Humberto Carrillo pusher à ce moment-là de l'année, je suis pas forcément méga fan, parce que moi, je vois pas grand-chose en lui, quoi, donc c'est vrai que, bon.
Peut-être que tu vois un peu plus en Mojo Rawley. Peut-être.
Oui, beaucoup plus.
Il avait un match ce soir. Alors visiblement, maintenant, on a des matchs officiels pour le titre 24/7.
Oui, faut croire.
Mojo Rawley qui est accompagné de son pote, la Riddick Moss, hein, son offensive lineman. Des anciens footballeurs.
Ça a dû te parler, ça.
Bah ouais, effectivement. Ça m'a parlé 10 secondes, quoi, même pas. Parce qu'après, je me suis souvenu que c'était Mojo Rawley qui était là.
Ah, c'était plus long que le match, c'est bien.
effectivement, il s'est débarrassé sans grande difficulté de Noé Rosé. L'angle, c'était plutôt que Hot Shoof était caché parmi la Congo Line dans un déguisement de cheeseburger.
De cheeseburger.
C'est pour ça que tu me parles de cheeseburger juste avant l'enregistrement.
Oui, ouais. J'ai faim en plus. Donc,
ouais, moi aussi. T'as prévu de manger quoi, là?
Un petit tagine. Un petit tagine, oui, c'est ça, livré par Deliveroo. Voilà.
Bah d'accord, le placement, non, je te demandais pas de faire du sponsoring inversé.
Ah oui, merde, on va se faire démonétiser.
On
là,
va se faire démonétiser, puis on va rien toucher de la part de ce prestataire de livraison de plat chaud que tu as cité.
Ah, du coup, c'est comme à la télé, faut que j'en cite plusieurs, du coup, pour pas qu'on se fasse avoir, tu sais.
Ouais, exactement. Mais bon, on s'en fout. Allez, on s'en fout, ouais, on s'en fout comme de ce match.
Ouais.
On s'en fout de Hot Shoof à récupérer une titre avant de le reperdre à nouveau. Et peut-être qu'on s'en fout aussi du match qui a suivi, la Liv Morgan contre Lana. On se foutait pas mal de choses.
Oui, on s'en fout aussi. C'est vrai qu'on s'en fout aussi.
Donc, ouais. Morgan a battu Lana.
Moi, je préférais quand il y avait Lashley et Rousseff dans l'histoire.
Ouais.
Ils étaient bannis alors.
Bah, bannis, les mecs se sont visiblement mis vraiment sur la gueule au point de ne pas participer au Rumble.
Ouais, c'est quand même dommage.
Complètement con parce que les mecs avaient. ils étaient chaud bouillants en rouge. Enfin, tu pouvais, les mecs, en profiter là, après la petite storyline de. Après Lang, Brock Lesnar, tu faisais venir ces deux mecs-là, ils se foutaient sur la tronche jusqu'à en oublier le Rumble, toi. Ça faisait un angle sympa où les mecs continuaient à se battre partout à travers le stade de baseball. Je sais pas, moi.
Pendant tout le match, tu vois, à côté, ouais.
Ouais, à côté, exactement. Genre, le mec, pendant 20 minutes.
Pendant tout le Rumble, ils se foutent sur la tranche dans les gradins, tu vois.
Genre, les mecs rentrent juste une fois pour et s'éliminent ensemble, et après, ils se foutent sur la tronche. Là, ça aurait été sympa, ça aurait rajouté un petit truc. Plutôt dire non, mais les gars, ils se sont mis sur la tronche, ils n'avaient pas le temps. Ah, puis on s'en fout aussi de ce qui a suivi, non ? Eric Rowan.
Ouais,
on s'en fout. Ouais, d'accord. Donc, qui s'est.
Ça n'évolue plus.
Non, ça n'évolue plus, ça dévolue. Ça révolue. Ça... Ouais, je sais pas ce qui se passe. On était parti sur un truc où visiblement.
Il s'est même pas fait mordre cette fois. C'était
ouais, non, je comprends pas. Ouais. Bon, on s'en fout aussi. Jusqu'au main event où là, on s'en foutait un petit peu moins. Puisqu'on a fait...
Ah, ça, c'est sûr.
On a fait tout le tour. Hein. Ce n'est pas Tony Schimmel qui a présenté Edge.
Ouais.
Mais Edge est de retour, aussi incroyable que ça puisse paraître.
Ouais,
genre,
ça, c'est incroyable.
Et c'est incroyable. En fait, j'en discutais avec une suiveuse de la WWE plutôt proche qui me disait, écoute, c'est Bray Wyatt, il a fait le con, il a pété sa machine à voyager dans le temps, là, il a appuyé sur une espèce de gros reset, puisqu'on sait qu'un petit peu le gimmick de Bray Wyatt, The Fiend, c'est un peu de... imposer à ses opposants de retourner un peu à leurs origines, etc.
Oui.
Avec, depuis 2019, donc arrivé de The Fiend, on assiste quand même à un gros bouton reset et on assiste à des choses improbables comme Edge qui participe au Royal Rumble et qui nous fait une promo de retour en main event demandé Nitro.
Incroyable.
Tu l'avais eu comment là cette arrivée de Edge Royal Rumble?
J'étais ça faisait vraiment longtemps, tu vois, que j'ai pas eu une telle surprise. J'étais tellement heureux parce que alors moi personnellement le Rumble c'est sacré. Pendant des semaines et des semaines, je coupe tous les sites internet de news avec des guillemets, hein. Et toutes les tout le bullshit qu'on peut lire partout, parce que en fait sur 9 saucisses, enfin sur 10 saucisses qu'on va lire, il y en a peut-être une qui va être vraie, et du coup ça me fait chier de l'avoir dans un coin de ma tête, donc je veux rien savoir. Et donc j'avais aucune idée qu'il était, parce qu'apparemment c'était la surprise avait été un peu spoilée, j'ai cru comprendre.
Ouais, visiblement, les gens étaient.
Pour ceux qui se tiennent au courant.
Ouais, voilà.
Bon, j'ai du mal à comprendre comment est-ce qu'on peut vouloir se spoiler un tel moment, mais bon, ça, c'est autre chose. Et donc, ouais, surprise de dingue, j'étais comme un fou. Je me suis. Moi, j'ai beaucoup aimé ce Rumble, mais alors là, ça m'a complètement réveillé. Je me suis redressé sur mon canapé. J'étais complètement captivé après tout du long, parce que c'est vrai que. On n'y croyait plus, quoi. Enfin, pour moi, c'était impensable. C'est un retour impossible. D'ailleurs. Écoute, bon, il fait ce qu'il veut. C'est sa vie, c'est sa santé. J'espère que vraiment, ils ont backé le truc parce que sa retraite, sa blessure, ses opérations, c'est loin d'être neutre dans le business du catch. Donc, il fait ce qu'il veut. Hein, mais j'espère que voilà, c'est bien safe, c'est bien clear. En tout cas, ça me fait évidemment, d'un point de vue égoïste de fan, ultra, ultra plaisir de le revoir. Donc, je suis super content. Et d'ailleurs, c'est... Enfin, on va parler de sa promo après derrière, mais elle était, enfin, elle vraiment, elle te touche, elle te secoue un peu sa promo parce que voilà, c'est
Vas-y, parle-nous-en, dis-nous tout.
Bah non, mais enfin, quand il s'est fait un petit peu voler sa fin de carrière par cette blessure. Et lui, c'est quelqu'un qui est déterminé, c'est un bosseur, il ne veut pas vivre avec des what if, donc des et si, en fait, un peu, point d'interrogation. Hein. Bah, qu'est-ce qui se serait passé si lui, il ne veut pas vivre dans le doute, il ne veut pas vivre dans la spéculation, dans le regret. Et donc, il a bust his ass, là, il s'est cassé le cul pour revenir, pour bosser comme un taré, pour se faire opérer par les meilleurs chirurgiens et tout, et pour revenir et pour terminer sa carrière selon ses conditions et pas les conditions du destin un petit peu et de la médecine. Donc c'est vrai que c'est, c'est aussi bien, c'est, même nous, tu vois, ça nous parle, parce qu'on se dit, putain, c'est Edge, c'est quand même quelqu'un qui a compté à la WWE et qui était adoré des fans, ou aussi bien détesté quand il était heel. Bah, c'est pareil, nous aussi, on a envie qu'il finisse sa carrière, pour nous, de la meilleure des façons, donc espérons qu'en tout cas, c'est ce qui va se passer pour lui, mais c'est génial, c'était génial de le revoir, et cette promo, moi, j'ai trouvé... Ça, c'est des moments, tu vois, la promo de Edge, quand il prend le micro, c'est des moments comme quand Triple Edge, parfois, se permet une petite promo, ou Shawn Michaels, ou Jericho avant qu'il parte, ou... C'est des mecs, ils l'ont, tu vois, genre, quand ils prennent le micro, tu les écoutes, t'es captivé, ils ont le hit factor, ils savent faire les promos parfaites, c'est des vidéos, c'est des clips comme ça que j'ai envie de montrer à des gens qui sont toujours en train de dire « Ouais, mais pourquoi on ramène toujours les stars du passé, on laisse pas leur chance aux jeunes et tout ?» Ouais, mais aujourd'hui, il n'y a aucun mec dans le roster qui est capable de faire une promo comme Edge a fait hier soir. Aucun mec actif. C'est des masterclass. Et donc après, donc pour continuer sur le segment, donc forcément, Orton est arrivé.
Hey.
Et bon, pareil, Randy Orton, c'est quand même lui aussi, hein, quand il sort les doigts un petit peu, c'est un master du micro. Et c'est vrai que de voir ces deux légendes, parce que Orton a beau être encore bien plus jeune que Edge, c'est bon, bah voilà, maintenant c'est futur Hall of Famer, tout ce que tu veux, il a tout fait. Il y avait, je pense qu'il y a du coup, on cumulait quoi, 20, 23, 24 titres de champion du monde dans le ring avec les deux.
Un million.
Certains disent 1 million, ça dépend comment tu comptes en fait, ouais, c'est vrai. Mais bon, c'est vrai que du coup, le moment était assez exceptionnel. Orton qui arrive, qui dit, bah voilà, on était potes, j'ai toujours eu une personnalité un peu autodestructrice, mais c'est toi qui m'a aidé à rester dedans, notamment avec l'association Rated Archeo. D'ailleurs, tu l'as senti comme moi hier soir au Rumble. Qu'est-ce que tu vois, tu parles de what if, bah, et si Rated Archeo se réunissait une dernière fois. Donc là, forcément, on est tous comme des fous. Enfin, en tout cas, moi, j'étais à fond. Et puis, bon, au lieu de le faire en deux fois, ils l'ont fait en un épisode, on va dire. Hein. Ils ont fait le début, le milieu et la fin. La trahison inévitable, la vipère qui refait surface pour son énième turn énième heel turn.
Oui, est-ce qu'on peut vraiment parler de turn,
ouais, c'est pas vraiment. En fait, c'est ça que je trouve marrant avec Randy Orton, c'est que d'ailleurs, ça a été teasé un petit peu dans le Rumble. C'est, tu le vois, tu sais qu'à chaque fois qu'il est allié à quelqu'un, il faut toujours avoir les yeux dans le dos. Ouais. Et il s'en amuse dans les bookings de match. C'était genre à se mettre derrière. Lors du Rumble, il s'était mis derrière Edge.
Il est comme ça.
C'est plus fort que lui. C'est sa nature. Et donc, bah là, voilà, la nature a repris le dessus. Archeo sur Edge, et après tu sentais en plus il y avait un blanc, j'ai trouvé que c'était sympa parce que le public a vachement joué le jeu,
ouais.
et ça montre aussi tout le travail énorme de promo qu'il y a eu avant de Edge qui était exceptionnel parce que il a fait une super promo pour hyper la foule pour son retour, pour être le plus gros babyface que tu puisses être, et du coup pour que la trahison soit encore plus folle. Et puis bah après ce moment là où il fait il tease de lui coincer la tête là entre dans la chaise pour le blesser. Bon, au final, il lui fait un concerto qui a encore plus de symbolique. Et tu vois tout le public, t'entends un mec dans les micros là au premier rang qui gueule non, le fais pas, Randy, le fais pas et tout. C'était assez sympa. Tu sentais que le public était un peu sous le choc.
Concerto, c'était voilà. Une prise que avait fait, c'est ça, sur Ric Flair notamment.
Le concerto, c'était. C'était un des super heel moves de Edge à l'époque, ouais, c'était son grand truc. Et c'était lui qui avait amené, enfin, les auditeurs nous corrigeront, mais pour moi, c'était lui qui avait inventé le terme et le move, quoi, ouais.
Bah, il est de retour, le concerto.
Et le concerto est de retour, et donc c'est vrai, bon, bah voilà, c'est la trahison. Alors, je sais pas ce que t'en penses. Moi, j'ai un petit regret sur ce choix de rivalité, parce que je pense que ça manque peut-être un tout petit peu d'ambition, on va dire, en termes de booking. Alors après, tout dépend. Je sais pas, parce que c'est vrai que
quel est le but final, quel est le où est-ce que ça va se dérouler.
Ouais, parce que alors après, ouais, tout dépend. Moi, je lis ça avec en tête le fait que Edge est pas de retour pour très longtemps, parce que bon bah voilà, il a je sais plus quel âge il a, mais il a 45 passé, ouais, j'imagine.
46.
Voilà, bon, il a 46, et il va pas non plus faire 36 000 matchs. Il a égrené un petit peu tous les adversaires, tu sais, en début de sa promo, ouais. Roman Reigns, AJ Styles, Seth Rollins, Kevin Owens, Aleister Black, Matt Riddle et tout. Ça, c'est des... Bah ouais, j'aimerais bien voir tous ces matchs. Uh-huh. Randy Orton, Edge, en fait, ils ont... cette rivalité, ils l'ont déjà eu au pic de leur forme, tu vois, vraiment au pic de leur carrière, il y a 10 ans. Du coup, qu'est-ce qu'ils vont vraiment pouvoir faire de plus ? Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir raconter de plus dans cette rivalité ? Hormis que, bah voilà, c'est la vipère, c'est le legend killer, il peut pas s'en empêcher, c'est plus fort que lui, il est obligé de trahir toujours. C'est le seul truc, je trouve ça un peu dommage, peut-être que j'aurais préféré voir autre chose à WrestleMania.
Déjà là, tu projettes... Tu
parles peut-être que je me projette trop loin, c'est vrai que tu as raison, il y a le super showdown à Riyad 2 mois avant, peut-être que ce sera le théâtre de ce match et peut-être qu'on verra autre chose, ouais. Mais bon, ça sent quand même le build Made in WrestleMania, ça c'est le truc qu'on va lancer 4 mois avant, il va y avoir tout un tas de promos.
Ça sent le build, voilà, ça en a la couleur, ça en a l'odeur, ça en a les formes d'un build de ce fameux match de légende, voilà, c'est qui est un indispensable de WrestleMania. Tu peux pas ne pas avoir des matchs de légende, des mecs qu'on n'a pas eu pendant un an et qui salut, c'est moi, c'est quand là, c'est où WrestleMania déjà? Donc effectivement, ça sent beaucoup, mais maintenant il y a une nouveauté, c'est l'Arabie Saoudite et ça change pas mal de choses justement, puisque alors là, je pense que eux, c'est pas juste à le match de légende, c'est que des matchs de légende quasiment.
Oui.
C'est chaud là, complètement.
Voilà, où les... Ah bah c'est des mini WrestleMania.
Voilà, où les Dollar Club ont fait plaisir.
Suffit de voir le budget à chaque fois.
Ah ouais, donc effectivement, ça en ressemble beaucoup, surtout des matchs de retour comme ça. On a eu Shawn Michaels. Bah, voilà, on va voir un match de Edge contre Orton. J'en sais rien, hein, j'ai pas les plans, mais.
Ouais.
Déjà, je dirais, si tu prends un point de vue juste, on va dire, comme tu l'as dit, Edge est de retour. Le mec, ok, il allait voir les meilleurs chirurgiens, mais c'est quand même une sacrée décision qu'il a prise vis-à-vis de sa santé. Le mec a fondé une famille entre-temps. Il faisait d'autres choses. Hein. Il avait son podcast avec son pote Christian. D'ailleurs, c'était bizarre, hein, parce que ça fait plusieurs semaines qu'il n'y avait plus d'épisode. On se demandait ce qu'il était parti faire. Voilà, il était... Alors, dans sa tête, évidemment, c'était toujours dans un coin de sa tête. Je pense que tous les catcheurs de ce niveau-là, quand ils partent, ils sont toujours dans un coin de sa tête.
De toute façon,
retour, ça part jamais.
Ce qu'on dit, hein, y a pas de retraite dans le catch.
On le répète suffisamment. L'ignoble ringside, comme même le dire Chris, le répète suffisamment. Il n'y a pas de retraite. Et là, je pense que Edge est venu dire, comme le dit ringside, il n'y a pas de retraite. Regardez, je ne peux plus bouger mon cou, mais il n'y a pas de retraite. Mais voilà, tu le mets entre les mains d'un vétéran, d'un mec qui connaît parfaitement.
Évidemment.
En termes de sécurité pour, on va dire, un retour, entre guillemets, hein, en douceur, parce que le mec quand même se donne, hein, enfin, il a eu des sacrés spots.
Ah bah,
évidemment,
ouais. C'est-à-dire que
tout le monde se jette.
Il a un finisher, ouais, en plus, il a un finisher qui est vraiment genre anti. Enfin. Qui va à l'encontre du problème de santé qu'il a, parce que c'est vrai que du coup il a des problèmes au cou et il envoie des spires dans tous les sens. Il en a balancé 5 ou 6 pendant le Rumble. J'étais là à chaque fois, j'avais un petit frisson quand même. Je me dis, bon, faire attention quand même.
Sinon, c'est bien, un spire.
Ouais, c'est bien. Tu n'es pas obligé d'en faire 10, mais bon, ok.
Quoi là, entre les mains d'Orton. Ouais, c'est pour ça que je me dis, quelque part, est-ce que c'est pas voilà, le plan juste. On va faire ce petit match entre les. Ce gros match hein, entre Edge et Randy Orton. Voilà, qui sera effectivement à des années-lumière de leur rivalité d'il y a 10 ou 15 ans, mais qui va permettre de prouver que Edge est bel et bien de retour, toi, si en plus il glane une belle victoire. C'est là qu'il va être. Et après, tu as des mecs comme Edge et Sal qui vont arriver, parce que Edge et Sal, visiblement, est blessé suite au spear de Edge, genre une vraie blessure. Et quoi de mieux ?
Donc ça, c'est pas anodin.
Quoi de mieux qu'Edge Sal qui revient après le Super Showdown et qui dit, hey mec,
Il s'est fait éliminer par Edge en plus.
Ouais. Tu m'as éliminé, tu m'as blessé, tu fais quoi là ? Tu reviens là ? Tu veux me choper la place à WrestleMania ? Tu veux me gâcher ma route là ? Et paf, c'est parti pour WrestleMania.
Moi, ça me plairait bien.
Ah bah ouais, je pense.
Ça me plairait bien. Écoute, on verra. Écoute, on verra si tu as raison. Est-ce que c'est juste une étape ? Parce que Randy Orton est une étape. Je préférerais le voir comme une étape un peu. Un petit rappel à l'histoire, parce que bon, après, faut pas se leurrer, hein, l'histoire, elle va s'écrire toute seule, hein, c'est super facile. Hein, tu leur donnes le micro chaque semaine, le match va se vendre tout seul et on sera absolument ravis de revoir Edge contre Orton. Mais voilà, si ça pouvait ne pas être l'affiche de WrestleMania, moi, ça me plairait bien, parce que j'aimerais voir profiter du retour de Edge pour faire d'autres. Toutes les affiches qu'il a mentionnées, quoi.
Ah, exactement. Ah, ils servent à ça, hein, les vieux tout cassés, hein. Non. Les vieux tout cassés font des matchs entre eux en Arabie Saoudite et font des matchs contre les petits jeunes
voilà,
aux États-Unis. C'est comme ça que ça marche normalement.
C'est ça.
Bon, c'est comme ça, c'est dans ce moment plein d'émotions. Hein. Là, franchement, c'était les montagnes russes en 10-15 minutes que s'est terminé ce show du lendemain et ce qui marque officiellement la route, hein, pour WrestleMania avec le vrai panneau WrestleMania cette fois-ci. Et donc, c'est l'heure. Mon bon Giscal, de te prêter à l'exercice qui n'a pas changé, le mot de la fin, si tu veux bien partager ton top.
Ah, vous faites toujours ça.
Ouais, bah ouais, nous on ne peut pas trop changer une formule qui fonctionne, voilà.
T'as bien raison.
Top, flop et note. Allez, au tableau.
Écoute, le top, j'ai hésité un petit peu avec mon bon Drew. Mais je vais quand même le donner à ce main event et cette promo de Edge, cette trahison, c'était génial. C'est deux vétérans superstars qui connaissent le métier sur le bout des doigts, le bout des ongles, et qui voilà, quand tu les mets à l'œuvre comme ça, là en main event d'Euro, ça te donne des segments d'anthologie et puis tu as l'impression que tout est facile, quoi. Mais c'est pas facile, faut être une vraie superstar pour pouvoir faire des segments comme ça. Donc super, super main event et très content de ce retour de Edge. Mon flop, il y avait pas mal de trucs extrêmement moyens, mais beaucoup aussi d'ambulances sur lesquelles il ne serait pas nécessaire de tirer. Moi, ce qui m'a chagriné un petit peu, c'est peut-être cette disqualification, ce match Charlotte-Asuka, j'ai pas trop apprécié le booking de ce genre de match. C'est typiquement le genre de match que j'aimerais ne pas voir booké le lendemain du Royal Rumble. Parce que ça, c'est le genre de match en fait où tu sens qu'ils le bookent, mais ils se créent des problèmes plus qu'ils ils ouvrent des opportunités, parce que finalement, ils peuvent pas faire perdre Asuka une deuxième fois alors qu'elle vient de perdre contre Becky Lynch la veille. Et en même temps, ils veulent pas faire perdre Charlotte qui vient de gagner le Royal Rumble. Donc du coup, ils font un truc un peu pourri.
Du coup, elles auraient plus.
Ouais, moi, dans ces cas-là, je dis faites pas le match, ou faites que Charlotte aille exploser Natalia, ou que Asuka prenne une petite victoire de revanche contre je sais pas qui d'autre. Et faites un truc un petit peu mieux avec un angle post-match, une brawl ou je sais pas, mais c'est le genre de truc qui m'agace. C'est typiquement le genre de match un peu all-star de remplissage qui certes était très sympa à suivre, mais qui n'apporte pas grand-chose. Donc c'est voilà, j'aimerais qu'en 2020, tiens, c'est une bonne résolution, mais qu'on arrête ces matchs 50-50 où de toute manière on sait que on va faire gagner ni l'un ni l'autre, donc arrêtez, quoi. Et puis ma note. Ma note, je vais mettre un 3, donc un 3 assez solide, mais je ne vais pas aller au-delà parce que il y avait quand même, entre MVP, il y a eu beaucoup de squash, le 24-7, Liv, Lana, il y a eu Eric Rowan, beaucoup de temps faible, surtout sur la fin. Ouais. D'ailleurs, ce qui illustre le mieux, c'est quand on a passé 2 minutes à dire bon, ça on s'en fout, ça on s'en fout, ça on s'en fout, ça on s'en fout. Il y a eu des petits trous d'air quand même. Hein, donc, 3 parce que c'était quand même relativement costaud, mais sans plus.
Mon top, c'est ça en fait. Hein, mon flop, c'est ça. On lance la route pour WrestleMania et on trouve encore le moyen de nous aligner 3 matchs, 3 squash matchs sans intérêt. Parfois même à en revenir à rebooter comme avec Eric Rowan, où finalement il se passe plus rien du tout.
Ouais.
Je comprends qu'il y ait plein de mecs qui soient lessivés, mais en même temps tous les mecs qui sont fait éliminer en moins d'une minute par Brock Lesnar, ils sont en forme, donc ils pouvaient utiliser ces mecs là pour nous proposer autre chose. Donc c'est quand même un petit peu de fainéantise de la part de la WWE qui se repose et effectivement sur ce qui compose les temps forts du reste de l'épisode, hein,
et notamment y a les 3 gros angles, hein, ouais.
Notamment moi mon top, je vais le donner à l'émotion qui a découlé dans cette, enfin qui a ouvert et qui a terminé cet épisode en fait. Et du coup, bah, je vais le filer à Drew McIntyre, tu vois, comme ça on a.
Ouais, on est en. Comme ça, on fait le sandwich.
On fait le sandwich. Il y a eu comme beaucoup d'émotions avec cette promo de Drew McIntyre, hein, qui a laissé transparaître, hein, qui. Le mec, il a fait une sacrée route, hein, pour en arriver là. Donc, c'est une sacrée histoire, hein, Drew McIntyre. Donc, moi, ça, à la manière de Edge, c'était un peu deux leçons de vie, hein, comme on aime donner aux États-Unis.
C'est vrai, c'est vrai.
Deux leçons de vie.
La persévérance. Ouais.
Persévérer.
L'échec et savoir se relever.
Voilà, deux personnages différents qui ont connu. Qui connaissent des carrières différentes, l'un qui arrive vraiment à la fin et l'autre qui en est presque, qui paraît en être qu'à son début. Et ça, vraiment, j'ai trouvé que c'était assez beau de retrouver ça justement dans ce grand cirque qui est le catch, la lutte professionnelle.
Quelle poésie.
Ouais, voilà, c'est des poètes. Entre les caca et les pâtés pour chiens, parfois ils arrivent à nous.
Ils arrivent à faire des belles choses.
Ils arrivent à faire des belles choses, mais bon, faut quand même continuer 3 heures pour ça. Et bah, du coup, 3 heures égale 3. Hein. 3 sur 5 pour moi, c'est la note. Parfait. Également, comme toi. Demandez, de cet épisode, demandez Nitro. Je vous rappelle, hein, Catch Up, on analyse les shows de la WWE. Vous pouvez nous retrouver en audio sur toutes les plateformes habituelles de podcast. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, PodCloud. Également sur YouTube, section commentaires. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez aimé et détesté dans cet premier épisode, hein, de Weekly après le Royal Rumble. Je remercie évidemment Giscal d'être de retour dans une grande forme, hein, tel le Edge de Ketchup.
Bah écoute, merci de m'avoir réouvert la porte. Il faut que je récupère le double des clés du coup que j'avais.
Voilà, t'as vu, on n'a pas désactivé ton badge.
Ouais, ça c'est sympa ça, parce que j'avais un petit peu peur ce matin en arrivant au bureau.
Joue à une voix près, hein. Ça va. Sache-le. Ouais.
Celle de Chris, j'en suis sûr.
Voilà, je pense que tout le monde aurait pensé ringside, mais parfois les apparences sont trompeuses. Voilà, en tout cas, on se donne rendez-vous très bientôt pour la suite des analyses, notamment SmackDown. Et d'ici là, on vous souhaite évidemment à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut, salut.
Ciao, ciao tout le monde. Mm-hmm.